Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 3 juillet 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby est visé par une enquête ouverte à Paris sur des soupçons de biens mal acquis en France. En France, plus de 200 candidats de la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire et du camp présidentiel arrivés en troisième position se désistent. Ici aux États-Unis, le représentant démocrate Lloyd Doggett appelle le président Joe Biden à se retirer de la course présidentielle. Dans notre parti magazine à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, un expatrié italien tient un commerce assez unique pour un étranger. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Mais pour l'instant, le journal. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est visé par une enquête ouverte à Paris sur des soupçons de biens mal acquis en France. Le point avec Eddy Issango.
L'enquête s'apesantit sur un possible détournement des fonds publics et recèle concernant les dépenses vestimentaires du président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Le conseiller à la communication à la présidence tchadienne, Armand Gambay Njengolta Rangerakor, dit espérer que celle-ci établira la vérité et dissipera l'intention de nuire à la réputation du président du Tchad. Il dénonce une manipulation politique orchestrée par un autre conseiller chargé des affaires présidentielles et ancien ministre d'État qui a amené à Mahamat Idriss Déby Itno un tailleur avec toute une série de complets. Selon Gambay Njengolta Rangerakor, le président tchadien, élu en mai dernier, ne les a portés que deux ou trois fois et ignore comment ils ont été achetés. Un article des Mediapart de décembre 2023 indique qu'ils ont coûté 900 000 euros dépensés à Paris par le président Mahamat Idriss Déby en costume, chemise et autres vêtements de luxe grâce à des versements reçus d'une société tchadienne via une banque. Mahamat Idriss Déby a succédé à son père Idriss Déby Itno, mort au front lors des combats contre les rebelles en 2021. Il s'est fait élire en mai avec plus de 60%. D'autres familles présidentielles d'Afrique centrale, comme les Sassou du Congo-Brazzaville et les Bongo du Gabon, sont aussi visées par des enquêtes du même genre. Théodorin Obiang, fils aîné du président guinéen Théodoro Obiang, a lui été le premier dirigeant étranger définitivement condamné pour des biens mal acquis en 2021.
Une élection présidentielle sera organisée en Tunisie le 6 octobre, a annoncé mardi le chef de l'État, Kais Saied. Au pouvoir depuis 2019 et dont le mandat de 5 ans expire à l'automne. Monsieur Saïd, 66 ans, n'a pas annoncé s'il briguerait un nouveau mandat. Il a fait adopter une nouvelle constitution par référendum à l'été 2022, instituant un nouveau système de deux chambres au pouvoir très limité. L'Assemblée des représentants du peuple et un conseil national des régions et des districts. Cette révision constitutionnelle a fait passer la Tunisie d'un régime parlementaire à un système ultra-présidentialiste qui consacre, selon ses détracteurs, la dérive autoritaire de M. Saïd. Trois personnes sont mortes dans le sud de la Mauritanie après avoir été arrêtées à la suite d'émeutes, a indiqué mardi le gouvernement dans un contexte de contestation après la victoire annoncée du président sortant Mohamed Ould Cher El Ghazouani à la présidentielle. La ville de Kaédi, dans la vallée du fleuve Sénégal, a été agitée dans la nuit de lundi à mardi par des actes de pillage et de vandalisme qui ont conduit les forces de sécurité à affronter les émeutiers et interpeller un certain nombre d'entre eux, a dit le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Deux des émeutiers sont décédés en détention, le troisième plus tard à l'hôpital, a-t-il dit. Le ministère n'a fourni aucune autre précision sur les circonstances de ces décès. Plus de 55 000 personnes ont fui la ville de Sinja dans le sud-est du Soudan alors que les combats font rage entre les forces paramilitaires et l'armée selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Le rapport a été publié lundi, deux jours après que les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, ont annoncé avoir capturé une base de l'armée à Sinja, de la capitale de l'État de Sennar, où des témoins ont fait état de combats et de la fuite de milliers de personnes. Les personnes fuyant la ville de Sinja sont arrivés dans les états de Gedaref, du Nil Bleu, du Nil Blanc et de Kassala, a indiqué OCHA. En Côte d'Ivoire, près de 200 personnes ont été légèrement intoxiquées après avoir notamment mangé le poisson d'un fleuve pollué par une fuite d'eau de décantation cyanurée d'une mine d'or fin juin, ont indiqué mardi les autorités. Il s'agit de la mine d'or d'Iti dans la zone de Zouan-Ounien dans l'ouest du pays, exploité par le groupe canadien Indiavour Mining, qui a nié mardi toute mise en danger des populations. Selon le ministère ivoirien de l'Environnement, après des analyses, c'est la rupture d'une valve, d'une canalisation qui transportait de l'eau boueuse cyanurée de décantation issue de l'exploitation de la mine qui est à l'origine de la pollution. Le président Sierra Leone, Julius Maada Bio, a promulgué mardi une loi interdisant le mariage des enfants dans un pays où des centaines de milliers de filles sont mariées avant leurs 18 ans. L'ONG Save the Children a salué un texte historique. La liberté est là pour nos femmes, a indiqué M. Bio à l'occasion d'une cérémonie organisée par des féministes et des premières dames de l'Afrique de l'Ouest à Freetown. Cette loi il criminalise le mariage des filles de moins de 18 ans et expose les contrevenants à au moins 15 ans de prison et une amende d'au moins 50 000 léones, soit 2083 €.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le désistement de plus de 200 candidats de la coalition de gauche du Nouveau Front populaire et du camp présidentiel arrivé en troisième position a réduit le nombre de triangulaires au second tour des élections législatives de dimanche prochain. Une manœuvre visant à barrer la route du pouvoir au Rassemblement national. Le point avec Jean-Roger Billon.
Au total, avec les plus de 210 désistements recensés, seulement une grosse centaine de triangulaires et quadrangulaires subsistent sur les 311 prévus dimanche dernier. Ces retraits visent à empêcher le RN et ses alliés de former un gouvernement qui serait historique, l'extrême droite n'ayant jamais été au pouvoir en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Le dépôt des candidatures, clos officiellement hier après-midi, donne une vision claire de la physionomie de ces élections historiques provoquées par la dissolution choc de l'Assemblée nationale le 9 juin par le président Emmanuel Macron. Le président du RN, Jordan Bardella, 28 ans promis au poste de Premier ministre, en cas de majorité absolue, RN a dénoncé des alliances du déshonneur et a appelé les électeurs à lui donner les clés du pouvoir. La figure de proue de l'extrême droite, Marine Le Pen, a évoqué la possibilité de former un gouvernement avec une majorité relative de 270 députés, complétée avec des soutiens glanés à gauche et à droite.
Le président français Emmanuel Macron a insisté mardi sur l'absolue nécessité de prévenir un embrasement entre Israël et le mouvement islamiste Hezbollah au Liban lors d'un entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Emmanuel Macron a souligné l'urgence pour toutes les parties d'avancer rapidement vers une solution diplomatique et a rappelé la nécessité d'observer la plus grande retenue. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé hier avoir demandé au premier ministre hongrois Viktor Orban, en visite à Kiev, de rejoindre les efforts de paix de son pays, alors que celui-ci a réclamé un cessez-le-feu avec la Russie. Jacques Aristide.
Le chef de l'État ukrainien a invité la Hongrie et le Premier ministre Viktor Orban à se joindre aux efforts déployés en vue de tenir un nouveau sommet pour la paix par l'Ukraine après celui du mois de juin en Suisse où Kiev a tenté de rallier le maximum de pays autour de ses propositions. Pour sa part, aux côtés de son hôte dans la capitale ukrainienne, le dirigeant hongrois dont le pays vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne, a déclaré avoir demandé à Volodymyr Zelensky de considérer rapidement la possibilité d'un cessez-le-feu qui serait limité dans le temps et permettrait d'accélérer les négociations de paix. Les initiatives de Kiev prennent beaucoup de temps, sont lentes et compliquées en raison des règles de la diplomatie internationale. A ajouté Viktor Orban, resté proche du Kremlin depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Le dirigeant ukrainien avait déjà rejeté dans le passé l'idée d'une trêve, estimant que Moscou l'utiliserait pour se renforcer. De son côté, Washington a annoncé hier une prochaine enveloppe supplémentaire de 2,3 milliards de dollars à Kiev, notamment pour des systèmes de défense anti-aérienne.
Le représentant américain Lloyd Doggett est le premier démocrate du Congrès à appeler le président Joe Biden à se retirer de la course à la présidence suite à la prestation très critiquée lors du débat présidentiel de jeudi. Les précisions avec Dilly Dico.
Lloyd Doggett du Texas a salué le premier mandat de Joe Biden, qu'il a qualifié de transformateur, mais déclaré qu'il n'est désormais plus possible d'en tirer profit. Le représentant démocrate a ajouté qu'il est temps de laisser un autre membre du parti défier le républicain Donald Trump à la présidentielle de novembre. Reconnaissant que, contrairement à Trump, le premier engagement du président Biden a toujours été envers le pays et non envers lui-même, il a déclaré espérer que le président prendra la décision douloureuse et difficile de se retirer. D'autres démocrates abondent dans le même sens. C'est sa décision, je veux juste qu'il comprenne à quel point cela a un impact, non seulement sur son élection, mais aussi toutes les autres qui auront lieu en novembre, a déclaré à CNN le représentant démocrate Mike Quigley, un modéré de l'Illinois. L'équipe de campagne de Biden tente depuis le débat de rassurer les électeurs américains, dont la majorité estime que le président Biden est trop âgé pour diriger le pays. Ce mercredi, Joe Biden rencontrera les gouverneurs démocrates, selon la Maison-Blanche, pour les rassurer sur son état de santé. Une autre source a indiqué que M. Biden rencontrera également les dirigeants du Capitole cette semaine.
À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, visé par une enquête en France sur des soupçons de biens mal acquis. Les investigations confiées à l'Office central de répression de la grande délinquance financière ont été lancées à la suite d'un article de Mediapart en décembre 2023 qui faisait état de plus de 900 000 euros dépensés à Paris par l'homme fort du Tchad en costume, chemise et autres vêtements de luxe grâce à des versements reçus d'une société tchadienne via une banque. La compagnie pétrolière nationale nigériane NNPC s'est engagée mardi à inverser la tendance à la baisse de la production de brut et a menacé de remplacer les partenaires qui ne respectent pas leurs engagements. La production de pétrole du premier exportateur africain a chuté ces dernières années, entravée par des vols et des sabotages à grande échelle et par le retrait des grandes compagnies pétrolières telles qu'ExxonMobil et Shell. La NNPC détient des entreprises et des contrats de partage de la production avec ces grandes compagnies pétrolières qui pompent environ 70% du pétrole nigérien. Le président américain Joe Biden et le sénateur de gauche Bernie Sanders ont réclamé mardi, dans une tribune commune, que les entreprises danoises Novo Nordisk et américaines Eli Lilly baissent le prix de leur traitement contre l'obésité, porteur d'espoir pour des millions de patients. Bernie Sanders et Joe Biden pointent également les différences de prix payées par les Américains par rapport à d'autres pays.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Ozine, bonjour à tous.
Amari Traoré suspendu pour rébellion.
Oui, la Fédération malienne a prononcé la suspension du capitaine de la sélection après la publication d'une lettre critiquant la gestion du football national selon un responsable. Amari Traoré, qui joue en Liga espagnole à la Real Sociedad, fait partie des joueurs de la sélection qui ont publié en juin une lettre dans laquelle ils déplorent l'absence de résultats depuis des années, la mauvaise gestion de leur sport par les dirigeants et le manque de professionnalisme de ces derniers. Les joueurs y menacent de boycotter la sélection si leurs dirigeants ne remédient pas la crise que traverse, selon eux, le football malien. La lettre destinée aux supporters a fait grand bruit au Mali. La commission disciplinaire a convoqué Amari Traoré, qui n'a pas répondu. Le comité exécutif de la fédération s'est alors réuni le 27 juin et a décidé de suspendre le joueur. de toutes les sélections pour manquement à l'honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l'équipe nationale et le football malien, affirme un responsable. Le Mali a été éliminé en quart de finale de la CAN 2023 et est quatrième du groupe I des qualifications pour le Mondial 2026 avec une victoire, 2 nuls et 1 défaite. Les Maliens restent sur 1-0 à Madagascar en juin. Les joueurs n'étaient arrivés à destination que quelques heures avant la rencontre après plusieurs reports de vol. Selon différents médias, la Fédération malienne de football a annoncé le 13 juin mettre fin aux fonctions de l'entraîneur Eric Sekouchel.
Les oppositions des quarts de finale de l'Euro 2024 sont connues.
Les deux derniers tickets ont été arrachés hier. Les Pays-Bas se sont qualifiés aux dépens de la Roumanie 3-0. Pour la première fois depuis 2008, les Néerlandais rejoignent le top 8 continental. En cas, les Pays-Bas vont affronter la Turquie qui a disposé de l'Autriche 2-1. Le tableau complet des quarts de finale se présente comme suit. Vendredi, l'Espagne fait face à l'Allemagne dans un gros choc, puis un autre choc entre le Portugal et la France. Samedi, l'Angleterre joue contre la Suisse et les Pays-Bas bouclent la boucle des quarts de finale contre la Turquie.
Et pour clôturer cette page sportive, Yacouba, le Brésil instaure une journée du roi Pelé.
Le 19 novembre n'est désormais plus une date anodine au Brésil, c'est la journée du roi Pelé, nouvelle date commémorative instaurée en hommage à celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps. La loi créant cette date commémorative a été promulguée par le président Lula da Silva. Plutôt que de choisir la date de sa naissance le 23 octobre 1940 ou de sa mort le 29 décembre 2022, les auteurs du texte ont décidé de célébrer la mémoire du triple champion du monde le jour où il a marqué son 1000e but. C'était le 19 novembre 1969 au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La cession des terres à des investisseurs rwandais soulève des vagues au Congo-Brazzaville. Le Premier ministre a récemment été interpellé au Sénat. Avec l'aide de notre stagiaire, Onel Kibemba Mazunga, Eddie Isango a recueilli les avis du camp du pouvoir et de ceux de la majorité sur la question.
L'un des leaders de l'opposition du Congo-Brazzaville, Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate, estime que le gouvernement essaye de cacher l'accord des cessions de terres. Clément Mirassa nous l'affirme ici.
Les gouvernants congolais de Brazzaville ne veulent pas reconnaître qu'ils ont cédé les terres. Mais nous, nous sommes convaincus qu'ils ont cédé les terres sur la base de deux faits. Le premier fait exact, c'est que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda au Congo a rencontré le ministre des Affaires foncières pour lui demander les actes fonciers pour les terrains que le gouvernement congolais avait déjà offerts à l'État rwandais. Vous voyez bien, si tu vas demander le titre foncier, c'est qu'il y a déjà une notion de propriété qu'il voulait officialiser. Le deuxième fait qui est plus important, c'est que c'est dans une édition du 30 mars 2024, sur la chaîne nationale rwandaise, il a été annoncé qu'une mission des membres du secteur privé du Rwanda avait effectué une mission au Congo du 4 au 8 mars et qu'ils ont visité les deux terrains dont la superficie cumulée fait 980 km² qui leur ont été offerts par le Congo et qui sont devenus leur propriété. Le Congo, les gouvernants congolais n'ont jamais démenti ces deux informations et nous pensons que la télévision rwandaise est une institution et que l'information qu'elle a donnée était fondée, même si nos gouvernants ne veulent pas reconnaître, mais parce que s'ils reconnaissent, c'est la haute trahison.
De son côté, les porte-parole du Parti congolais du travail au pouvoir, Parfait Iloki, répond qu'il n'y a rien à cacher et que les contrats en question pourraient même tomber en désuétude à la fin de l'année. Parfait Iloki nous a aussi donné des explications.
Non, il s'agissait du point de vue textuel d'une cession des terres à des privés, mais d'origine, à des capitaux et oui, des privés d'origine rwandaise. Mais la cession des terres chez nous au Congo obéit à un mécanisme coercitif et assez difficile, de sorte qu'un étranger ne peut pas comme ça se lever un matin et récupérer une portion de la terre. La République du Congo ne vend pas des terres. C'est un mécanisme de vente amphithéotique qui a été fait par le ministère en charge de ces questions, donc le ministère des Affaires foncières. Mais ce mécanisme, d'une part, est en route, mais d'autre part, est déjà un peu en difficulté parce que, effectivement, le partenaire rwandais n'a pas respecté tous les mécanismes prévus par les textes en vigueur, ce qui fait que, conformément à ce que le gouvernement a donné comme information, eh bien, d'ici la fin de l'année, si les mécanismes juridiques ne sont pas respectés, ben, ces terres ne seront plus exploitables par le partenaire rwandais qui a dû signer avec l'État congolais, qui a pacté avec l'État congolais.
Fin juin dernier, le Premier ministre Koliné Makosso a répondu à une question orale du Sénat à ce sujet.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Un responsable américain a affirmé le mois dernier qu'une société minière chinoise utilisait des tactiques prédatrices pour maintenir à un niveau bas le prix du cobalt extrait en République démocratique du Congo. Dans son reportage, Henry Wilkins explique ce que cela signifie pour l'Afrique. Le récit est de Jacques Aristide.
José Fernandez est le représentant du gouvernement américain auprès du MSP, Minerals Security Partnership, créé en 2022 et principalement composé de pays occidentaux. Objectif du partenariat pour la sécurité des minéraux, accélérer le développement des chaînes d'approvisionnement en minéraux énergétiques. En juin dernier, M. Fernandez a accusé la compagnie chinoise CMOC de pratiques prédatrices pour faire que les prix du cobalt congolais demeurent plus bas. De telles tactiques, illégales dans certains pays, sont parfois employées par des entreprises pour éliminer la concurrence et établir un monopole. Dans une réponse écrite à la VOA, la CMOC déclare nier fermement ces accusations. Cette vague de fluctuation des prix se situe dans la fourchette normale et reflète fidèlement l'offre et la demande du marché, ajoute-t-elle. Le MSP affirme vouloir éliminer les prix d'éviction et réformer l'industrie minière mondiale, où l'exploitation des travailleurs et des institutions dans les pays en développement est courante. Monsieur Fernandez, qui est également sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, affirme que les richesses minières africaines, comme le cobalt, sont essentielles à la transition planétaire vers l'énergie verte face au changement climatique.
We need Africa. We need African resources.
Nous avons besoin de l'Afrique. Nous avons besoin des ressources africaines pour y parvenir. C'est une opportunité pour l'Afrique et l'Afrique peut exiger ce qu'elle a toujours voulu, à savoir une assistance technique, un transfert de connaissances, une collaboration avec les communautés pour qu'elles en tirent profit.
Pour des analystes, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres membres du MSP cherchent à ôter le contrôle des ressources stratégiques de la République populaire de Chine alors que sa rivalité avec l'Occident s'intensifie. Monsieur Fernandez ne partage pas cet avis.
L'objectif est de diversifier nos chaînes d'approvisionnement. Il est vrai que la Chine contrôle pour l'essentiel bon nombre de ces minéraux. C'est une vulnérabilité non seulement pour l'Occident, mais pour nous tous. Nous tentons de faire cela tout en respectant des valeurs environnementales, sociales et de gouvernance. J'entends par là travailler avec les communautés pour garantir qu'elles bénéficient de leurs ressources naturelles.
Des experts miniers ont confié à la VOA que les entreprises chinoises ont recours à certaines des pires pratiques dans l'industrie minière. Pour eux, le MSP est vital pour contrer cela. André Baya, PDG de Corpotash, une société minière opérant en République du Congo.
C'est une réaction importante pour contrecarrer ceux qui n'ont pas les mêmes exigences morales. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs privés chinois en Afrique qui ne sont même plus maîtrisés par leur gouvernement et leur pays. Et leur comportement peut être le plus choquant.
Un observateur croit que la tâche du MSP est difficile car ce bloc et l'Occident n'ont pas la même influence, le même contrôle ou les mêmes leviers que la Chine a sur ses entreprises privées. Christian Geronima est du China Global South Project.
So that's why C'est pourquoi, qu'il s'agisse du MSP, de l'IRA ou de la Critical Raw Materials Act en Europe ou de toutes sortes d'initiatives au Canada ou en Australie, ils dépendent tous d'une seule chose. Ils dépendent du fait que les entreprises privées seront disposées à mettre en œuvre cette stratégie.
En fin de compte, conclut M. Fernandez, les pays africains devront décider eux-mêmes avec qui s'associer.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, un expatrié italien tient un commerce assez unique pour un étranger. Il vend du porc grillé, un plat très apprécié. Les détails dans ce reportage de Gildas Da, relaté par Mouamadou Oumfa.
Lorsque Boy Tarcisio est arrivé d'Italie au Burkina Faso en 2014, il avait l'intention de créer une entreprise de location de camions. Quand cela a échoué, Tarcisio s'est inspiré de son enfance en Italie, où il préparait et mangeait du porc grillé avec sa famille.
Et puis on a essayé là, et puis ça marchait. Ça a plu cette viande, et puis j'ai continué.
Tarcisio s'est installé définitivement au Burkina Faso. Il dit qu'il s'est senti le bienvenu ici.
Je me suis trouvé bien, je sais, j'ai des amis, j'ai tout. Hein, pour vous dire, je n'ai pas trouvé difficulté à m'intégrer avec eux.
Après s'être installé à Ouagadougou, il a épousé une Burkinabé et a eu des enfants. Aujourd'hui quinquagénaire, Tarcisio a 3 employés Burkinabé qu'il a formés sur le tas. Timothée Bassolet est l'un d'eux.
Un bon patron, il nous a appris comment il faut cuire le porc. Et il y a beaucoup de choses aussi, beaucoup de techniques qu'il nous a appris aussi. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un de bon aussi. Souvent, quand on a des difficultés aussi, il est tout le temps à côté. L'activité, en tout cas, ça me permet beaucoup de nourrir ma famille. Bon, c'est un Italien, mais maintenant, on dit qu'il est burkinabé, hein. Il n'est plus italien.
Le porc grillé de Tarcisio est très populaire parmi ses clients à Ouagadougou. Des clients comme Prosper Sanon, un habitué de la cuisine de Tarcisio depuis des années.
Et pour la petite histoire, je peux vous dire quelque chose d'assez particulier. Mon épouse n'avait jamais mangé le cochon avant. Et lorsqu'elle a regardé la cuisson, finalement, elle a adhéré. Et ben voilà, elle mange depuis tout ce temps.
L'activité de Tarcisio a été affectée par la guerre en cours dans le pays du Sahel, qui a fait environ 12 000 morts en 2023. Malgré cela, Tarcisio affirme qu'il n'a pas l'intention de retourner en Italie.
Non, je vais rester ici. Et je souhaite vraiment une chance à tout Burkinabé que cette guerre va finir tout de suite.
Boy Tarcisio affirme qu'il continuera à faire ce métier qu'il aime et espère que la guerre prendra fin pour que l'économie et son entreprise puissent se développer et prospérer.
Qui le candidat à la présidence des États-Unis, Donald Trump, choisira-t-il comme colistier à l'approche de la convention nationale républicaine qui se tiendra le mois prochain? Donald Trump est resté muet sur son choix, mais plusieurs candidats se sont manifestés. Tina Trin nous explique que chacun de ces candidats potentiels offre la possibilité d'élargir la base de soutien de Trump. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Pour la vice-présidence, Kamala Harris est le choix du président Joe Biden en cette saison électorale. Pour le candidat républicain pressenti, Donald Trump, personne ne sait. Trump s'est contenté de dire qu'il annoncerait son choix lors de la convention nationale du parti en ce mois de juillet. Parmi les candidats qui se sont manifestés, chacun a la possibilité d'élargir la base de ses partisans. Le gouverneur de Dakota du Nord, Doug Burgum, est l'un des principaux candidats. Cet homme d'affaires et entrepreneur a créé une société de logiciels financiers que Microsoft a racheté en 2001 pour plus d'un milliard de dollars. La richesse et les relations de Burgum seraient des atouts majeurs pour aider à financer la campagne de Trump. Son expérience et son savoir-faire en matière d'affaires correspondent à l'image de marque de Trump en tant que promoteur immobilier avisé. Marco Rubio, un Floridien, est un autre candidat de premier plan. Le sénateur jouit d'une notoriété certaine avec plus de 25 ans d'expérience de gouvernement au niveau local, régional et national. Actuellement vice-président de la commission sénatoriale du renseignement et membre influent de la commission des relations extérieures, ce cubano-américain originaire de Miami pourrait élargir la base des partisans hispaniques et latinos de Donald Trump. Le sénateur J.D. Vance de l'Ohio, dont c'est le premier mandat, est aussi considéré comme l'un des principaux candidats à la vice-présidence. L'ancien investisseur en capital risque s'est fait connaître avec ses mémoires de 2016, Hillbilly Elegy, qui explore le déclin culturel et socio-économique de la classe ouvrière blanche rurale. Un sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, est aussi en lice pour la vice-présidence. S'il est choisi, il sera le premier républicain noir à figurer sur un ticket présidentiel, ce qui pourrait élargir l'attrait de Trump auprès des Noirs américains. La carrière politique de Tim Scott a débuté au niveau local en 1995 et il siège au Sénat depuis 2013. Le nom d'Elise Stefanik, représentante de l'État de New York, a fait surface en tant que possible vice-présidente. Stefanik se considère comme la meilleure alliée de Trump au Congrès, où elle est le quatrième leader républicain de la Chambre des représentants. Le choix du vice-président de Donald Trump ne se résume pas à la question de savoir qui est le plus en phase avec ses priorités, mais aussi qui sera le mieux placé pour les